tous. Retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h23. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la demi-heure sport. Un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent en podcast. L'émission est réalisée par Cyril Vang. Comment il va, Cyril ?
Bien, merci. Bonsoir, Jérémy. Et bonsoir à ton invité.
Voilà.
Et Yannick aussi
qui est là. Yannick, comment il va ?
Yannick, attends, je cherche la caméra qui va sur Yannick.
Voilà.
Ah, c'est pas ça. Bon, enfin, ouais. Elle est cachée.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Comment ça va ?
C'est bon, il a parlé.
Nickel, notre réalisateur de l'émission. Allez, ce soir, on va parler d'une fondation, la fondation Canisport et Cancer. Ce soir, nous avons une invitée prestigieuse qui est avec nous, qui est déjà venue plusieurs fois dans nos studios. C'est Julia Paluche qui est avec nous. Comment ça va ?
Ça va bien, toi aussi ?
Ben écoute, super, super, ravi de te retrouver dans nos studios. Et ce soir, ça rigole pas, t'as carrément mis... le maillot Camille Sport et Cancer. On commence, présente-nous un petit peu comment ça fonctionne, Camille Sport et Santé.
La Camille Sport et Cancer, c'est une association qui existe depuis 25 ans sur le territoire français. Donc on est sur une association qui est ancrée à l'échelle nationale. Donc nous avons donc le siège de l'association à Paris avec un service partenariat, un service communication. Et beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette association.
Ouais.
Nous avons également une trentaine de praticiens en France qui sont sur différents départements, territoires, en électrons libres et qui vont finalement assurer le rôle de praticien, le métier même de praticien en thérapie sportive, donc sur la France. Ce métier, donc, il consiste à intervenir dans les hôpitaux, dans les pôles de santé, dans les maisons de santé... Et également dans des dojos, dans des lieux mis en place par les mairies, des lieux à disposition pour permettre de promouvoir l'activité physique thérapeutique en oncologie.
Ouais, d'accord. Tu parlais tout à l'heure répartis partout en France, c'est-à-dire dans combien de départements
Alors, nous sommes ancrés sur l'ensemble de la France. On essaie de graviter sur tous les départements français.
Ouais.
Le but, c'est vraiment de s'étaler justement sur tout le territoire. Il y a encore de nouvelles régions et départements qui développent la CAMI. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un besoin fondamental dans le cadre de l'activité physique. On fonctionne énormément avec les oncologues, donc ils nous font des prescriptions médicales.
D'accord.
Pour permettre aux patients finalement de venir à la CAMI de manière sécuritaire. Donc les oncologues, ils vérifient que les patients n'aient pas de soucis, de contre-indications, comme des maladies cardiaques graves, des antécédents cardiaques graves, ou d'autres choses, d'autres antécédents de santé ou comorbidités de santé qui pourraient avoir un impact sur la pratique sportive trop important. Cette prescription, elle assure une sécurité aux praticiens. Derrière, le patient, donc, il peut venir sur trois modes programme. On en parlera juste après.
Après, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Du coup, quelle est la marche à suivre pour inclure des patients au programme ?
Donc, la marche à suivre, précisément, c'est une consultation. Déjà, d'accord. Je rencontre le patient, je dis « je », mais le praticien, de manière plus large, va rencontrer le patient et faire une consultation avec lui. Suite à cette consultation, il va y avoir donc l'histoire de la maladie qui va être abordée entre le praticien et le patient. Donc la consultation, elle se fait en tête-à-tête, il n'y a pas les proches du patient, pour des raisons de assez personnel, le patient...
Confidentialité, oui, bien sûr.
Et puis même si c'est les proches des patients, le patient a besoin de se livrer seul et de pouvoir exposer seul son parcours de soins. Ensuite, quelques tests de conditions physiques. Donc,
ouais.
Pour te donner un ordre d'idée, même pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, un test de mobilité du bras, par exemple, pour mesurer la mobilité de l'épaule, la mobilité, on dit, gléno-humérale. On va mesurer la force des quadriceps par le test de la chaise, mesurer la force des abdominaux, des transverses, des grands droits, par donc de la tonicité abdominale, mais aussi périnéale par le test de la planche, qui est
d'accord,
assez connu
okay.
finalement okay, dans okay. le monde du sport et de l'activité physique.
Mesurer, c'est-à-dire comment tu fais enfin...
Alors avec un chronomètre, tout simplement,
ouais.
Je vais chronométrer le patient et jusqu'à 30 secondes, on dit qu'il y a une force qui est légère à modérée et au-delà... Plus le patient va se rapprocher d'1 minute 30, plus le patient finalement va avoir une bonne condition physique dans okay. le domaine chronométrer. Donc ça peut être le test de la chaise, ça peut être le test de la planche. On a le test de la souplesse des ischio-jambiers parce que, comme on le sait tous, la condition physique repose sur trois dimensions phares. Je vais intégrer la quatrième, l'équilibre, la force musculaire, la souplesse et la coordination. Elle n'est pas tout le temps prise en compte dans les études, mais c'est vrai que la coordination aussi est importante dans la condition physique. La coordination, on va pouvoir l'observer aussi sur le step test. Le step test, c'est un test à double enjeu qui va me permettre de mesurer finalement la capacité cardio-respiratoire du patient, ouais. Mais également derrière la coordination du patient, sa capacité à coordonner les membres inférieurs en montant et en descendant sur le step. Donc là, je vous donne déjà des données phares sur les tests de condition physique. C'est assez détaillé, on est sur des tests qui sont effectués de manière cliniquement froide, c'est-à-dire qu'on a une formation en arrivant à la CAMI en tant que praticien pour faire effectuer les tests aux patients de manière cliniquement
neutre. C'est une formation de combien de temps ?
Neutre en fait.
Ouais, c'est une formation qui dure combien de temps ?
Alors en arrivant à la CAMI justement, bonne question, le praticien, ouais. Il a le DU sport et cancer à passer en visio avec ouais. Des oncologues qui font des cours finalement sur les différents types de cancers, de l'hématologie jusqu'au cancer du sein en passant par différents types de cancers, le cancer de la prostate. Enfin, on a différentes thématiques en fait qui vont être abordées en visio essentiellement avec quelques interventions finalement en présentiel. Donc à l'époque, la session de 2022, les praticiens de 2022, on a été formés à Fontainebleau, au CNSD, au centre militaire de Fontainebleau.
D'accord.
Sur une année complète, avec aussi une formation de médiété pour permettre de donner les bonnes consignes sur les séances aux patients. Donc c'est une formation qui est minutieuse, qui nous a été donnée par une kinésithérapeute avec également des cours d'anatomie. On ne peut pas prétendre être un bon praticien si on ne connaît pas minutieusement toute l'anatomie du corps.
Bien sûr.
Donc en fait, ça a été un travail de fond, hein,
sincèrement. Doute, ouais, parce que quand tu parles là de tout ça, on se dit qu'il y a un vrai travail derrière. Quoi.
Alors, les praticiens ont une licence STAPS, on n'en a ouais. pas parlé, mais c'est important de le dire, 3 ans en sport-études à Bordeaux. Mais c'est vrai que ces 3 ans, sans dénigrer la formation STAPS, la formation d'anatomie, elle a été vue et revue d'ailleurs, mais dans des grands amphis, avec beaucoup de d'élèves, et finalement, pas zappé, mais presque, il faut capter l'attention des élèves, et je sais que la formation que j'ai eue à la CAMI a été beaucoup plus approfondie que la formation que j'ai eue en STAPS, en sport-études, finalement.
D'accord.
Enfin, licence STAPS à Bordeaux, c'est ce que j'ai passé à l'époque, avec une spécialité activité physique adaptée, ou handisport, plus vulgairement dit, pour finalement prendre en charge les personnes en situation de maladie. On est sur du sport santé, finalement.
Ouais.
Donc, c'est 3 ans à la fac, avec une spécialité en parallèle. Je vous rappelle, en troisième année, on est une petite classe de 12 élèves en e-sport parce que c'est vrai que c'est pas la filière qui attire le plus finalement.
Ouais,
la plupart voulaient être prof de sport ou coach sportif. Donc là, on est sur une petite formation de 3 ans en parallèle du tronc commun en STAPS, en sport-études, finalement, qui permet d'avoir une maîtrise du corps humain. Et je me rends compte que dans le cadre de l'ACAMI, c'est bénéfique.
C'est bénéfique, ouais. C'est complémentaire entre les deux. Mais c'est vrai que c'est vachement approfondi.
Et j'ai pris l'habitude aussi de faire des petits schémas aux patients parce que c'est important qu'ils connaissent le corps dans lequel ils habitent. C'est vrai que ça peut paraître un peu intello, ça fait rire certains, mais ce côté dessin, ça va permettre aux patients de se situer et de savoir, par exemple, qu'est-ce que c'est que le périnée. Tout le monde en parle. Le périnée, tous les patients ne savent pas qu'ils en ont un. Les muscles des bras, je fais des petits schémas sur les abdominaux, les transverses, les grands droits, voilà, que les patients ils puissent comprendre un petit peu de quoi je parle, parce que je donne beaucoup de notions anatomiques, de moins en moins pour rendre mon discours assez accessible à tous.
Bien sûr, sans perdre le patient, quoi.
Exactement, il ne faut pas perdre la personne, mais il faut aussi montrer le professionnalisme et le côté minutieux de la formation, d'où l'intérêt de faire ces petits schémas qui créent un petit intermédiaire entre le côté intello des termes énoncés et finalement le côté concret, je comprends de quel terme la praticienne parle pour pouvoir l'appliquer en séance.
D'accord. Comment se construisent les séances du coup de la CAMI ?
Alors les séances, on est sur des séances de médiété. Le médiété, donc c'est la formation qu'on a eue en STAPS, à Fontainebleau en 2022. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Donc on est sur une formation de médiété basée sur le positionnement du corps juste en fait pour éviter au patient d'avoir un mauvais positionnement sur la séance. Et ensuite, par-dessus, on construit des exercices de renforcement musculaire, d'assouplissement, d'équilibre un petit peu également. Donc, on est sur des séances plutôt assez longues, une heure la séance avec 30 minutes d'échauffement. Nous avons 20 minutes de tronc de séance, de corps de séance avec finalement du gainage, des assouplissements en alternance.
Ouais.
Quelques exercices d'équilibre et 10 minutes de retour au calme avec une relaxation à la fin pour permettre au patient finalement de prendre conscience de son corps, de prendre conscience du relâchement du corps, l'ancrage au sol, c'est assez important.
Et tu vois l'évolution des patients qui viennent au début,
oui,
voire jusqu'à la fin de l'accompagnement, et tu vois qu'il y a une vraie évolution sur la partie tu vois, de la construction de par rapport à l'échauffement, plus la séance. On arrive du coup à... Je vais pas arriver à poser ma question. Je voulais dire, tu vois une vraie évolution en fait.
Oui, alors en fait...
Sur tout ce qui est partie cardio ou autre derrière...
C'est intéressant en fait parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a une évolution sur les 3 mois de programme, c'est-à-dire que j'ai la consultation initiale, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je rebondis sur ta question.
Ouais.
À la fin des 3 mois de programme, on a de nouveau une consultation pour faire un comparatif.
D'accord.
Par rapport au premier test.
C'est 3 mois minimum ?
Voilà, c'est tous les 3 mois.
Okay.
Et au bout de 3 mois, le patient, soit il part faire un nouveau projet sportif, ou alors il reste à la CAMI. Il a cette possibilité finalement de continuer à se développer à la CAMI, mais tout en ayant tout le temps tous les 3 mois, cette consultation pour rythmer les séances. Et que le patient sache où il en est, parce que s'il ne sait pas où il en est physiquement, il peut avoir l'impression de stagner ou de pas forcément progresser. Alors qu'en fait, avec 2 séances par semaine, 1 heure chaque séance, le patient va forcément construire sur 3 mois de la masse musculaire, un meilleur équilibre, une meilleure proprioception, travailler également la posture. Beaucoup de personnes on le voit beaucoup dans notre société, mais sont sifosés à cause des ordinateurs, des téléphones. Donc le but, ça va être de redresser les épaules, d'aller travailler sur le bassin qui est souvent un petit peu trop vers l'arrière avec un creux dans le bas du dos.
Comment on fait pour modifier justement ces mauvaises postures qui sont prises au quotidien ?
Alors nous, en début de séance, on a, c'est la formation de médiété, une posture juste qui est les pieds parallèles, les genoux orientés sur l'extérieur, le bassin neutre, donc justement ni en antéversion ni en rétroversion, et le dos droit. Donc je positionne le patient comme ça en début de séance pour ensuite pouvoir travailler la respiration et rentrer doucement dans la séance tout en gardant un mouvement juste sur chaque position. C'est-à-dire que la planche, bien sûr qu'on va la faire, mais en parlant du périnée, en allant chercher les muscles profonds, en gardant un bon espacement des pieds, en travaillant sur l'orientation des genoux, c'est assez minutieux. Vu que c'est des mouvements minutieux, je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de mouvements sur une séance.
Bien sûr.
Il y a tellement de détails sur un seul mouvement qu'on va faire peu de mouvements, mais de meilleure qualité.
D'accord.
En fait, c'est dans l'air du temps, mais on est sur du qualitatif et moins du quantitatif.
Ok. Et les séances, là, du coup, tu en as combien par semaine ?
Alors, les séances, moi, en tant que praticienne, de mémoire, j'en ai 10.
D'accord, ok.
Par contre, pour les patients, c'est 2 séances... par semaine.
Par semaine, ok.
Voilà, d'1 heure chacune à rythme modéré. Et les patients, en fait, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir différents créneaux, le matin ou l'après-midi. Ils peuvent choisir, en fait, en fonction de leurs emplois du temps. Certains sont en arrêt de travail de par la maladie, ceux qui sont au cœur des traitements de chimiothérapie. Et d'autres, ils ont repris le travail à mi-temps. Ils n'en sont pas tous au même stade dans le parcours de soins. Je prends en charge les patients avant, pendant et après le traitement. Donc, en fonction du patient, j'adapte aussi les créneaux, j'adapte les mouvements. Chaque patient va avoir des objectifs qui lui sont propres et sur chaque séance, il a au moins 3 mouvements qui lui sont attribués en fonction de ses objectifs.
On a pas mal, du coup, on connaît pas mal de personnes qui sont, du coup, sportifs.
Oui.
Le sportif qui apprend, par exemple, il a un cancer... demain, on sait, chaque sportif, psychologiquement, c'est très compliqué. On va dire, le ciel nous tombe un petit peu sur la tête. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à ces sportifs, du coup, où c'est que ça arrive ? En fait, c'est pas terminé, en fait, finalement. Le sport peut les faire sortir de là.
En fait, c'est intéressant. Le sport permet... Je sais pas si j'aurais la prétention de dire que le sport permet de sortir de là, mais en tout cas, le sport aide à lutter contre les effets secondaires des traitements.
Ouais.
Donc, intéressant d'en parler. Le sport, ça a été prouvé scientifiquement, c'est le seul moyen de lutter contre la fatigue, contre les douleurs articulaires, donc ça peut être les douleurs aux poignets, aux chevilles, au niveau des coudes. C'est des douleurs qui sont assez répandues, notamment pour les patients qui ont des chimios fortes comme l'herceptine ou le taxol, des chimios qui font perdre les cheveux, qui abîment les ongles et qui atteignent énormément les articulations. Donc on est sur finalement un maintien de la condition physique, de la masse musculaire par l'activité physique. On va être au-delà du maintien, peut-être chez certains, sur un développement, ce qui est difficile en période de chimiothérapie au creux de la vague. Une amélioration de la mobilité suite aux chirurgies. Suite aux chirurgies, il peut y avoir pour le patient une adhérence, une adhérence de la cicatrice. Ouais. Et donc le but, ça va être d'aller travailler cette mobilité. Donc des articulations, limiter les douleurs, limiter la fatigue, limiter le risque de récidive. Dans le cadre du cancer du sein, plus la femme bouge, moins elle a de masse graisseuse et donc moins elle a de chances finalement de récidiver. Voilà, dans le cas du cancer du sein.
Les cellules cancéreuses sur la tumeur graisseuse, par exemple.
Le but, ça va être de limiter, en tout cas, la réapparition de la tumeur.
Ok, ok. Par le sport, par le développement de la masse musculaire.
Oui, okay. Développement de la masse musculaire et diminution de la masse graisseuse, en fait.
Ouais.
Donc, en fait, assez intéressant pour le patient, c'est il y a différents bénéfices à venir bouger à la CAMI.
D'accord. Donc, à la CAMI, quelles sont les actions au niveau national que vous menez?
Alors là, cette année, à la chaîne nationale, il y a eu les 25 ans de la CAMI et je voulais revenir dessus.
Oui.
C'est un sujet, j'en ai discuté avec toi un petit peu avant l'interview. C'est intéressant de revenir dessus parce que, en fait, toute la France, tous les praticiens dans la France, ont mis en place cet événement. Donc, c'était un événement à l'échelle nationale. Nous, en Dordogne, on a fait donc une marche de 25 km le long de la voie verte, sur la voie verte. Les patients, donc, ils étaient une cinquantaine et... Ça a très bien fonctionné. Il y a eu quelques personnes assez fatiguées. 25 km, ce n'est pas anodin. Donc l'année prochaine, on va certainement...
Peut-être réduire un petit peu la distance.
Exactement.
Ouais, ou proposer peut-être d'autres distances. Mmh. Ouais.
Bah, c'est vrai que déjà en tant que sportif, on peut avouer quand même que 25 km,
c'est beaucoup
en marchant.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Donc pour
ouais.
des personnes en situation de chimiothérapie, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait du remodelage à faire en termes de distance. Là, on s'est dit que on a marqué le coup, les 25 ans, les 25 km, ça avait du sens. L'année prochaine, ça peut être un événement de rentrée, ça va être remodulé. Après cet événement, on a mis en place une célébration avec un chanteur à la guitare sèche, qui a fait de la guitare sèche sur des musiques françaises. On a eu également un atelier de méditation. Enfin, il y a eu une petite fête pour fêter finalement ces 25 ans.
Un peu tout ça, ouais.
Et oui, en fait, c'est une belle fédération entre les patients. Ouais. Il s'est passé quelque chose et je me suis rendu compte sur les séances après que les gens ont créé plus facilement du lien et que la journée a été bénéfique. On a créé un partenariat avec Firmin, du coup, pour organiser un petit déjeuner le matin. On a organisé un partenariat avec Auchan qui nous ont fourni de la nourriture pour le soir.
Ouais.
Donc plusieurs partenariats ont été mis en place, notamment avec le collège et le lycée de Saint-Joseph. Il y a une section coiffure, donc les filles de la section coiffure sont venues participer à la marche. Je dis les filles parce qu'il n'y a qu'un garçon, il n'a pas pu venir sur cet événement. Donc le lycée Saint-Joseph s'y est également énormément impliqué, que ce soit en termes financiers ou en termes d'implication physique sur la journée. Et on n'oublie pas l'association Le Chemin qui a assuré les ravitaillements. C'est une association de jeunes en réinsertion sur Périgueux, ils ont assuré les ravitaillements sur la marche. Bon, il y a eu vraiment une belle dynamique autour de cette journée. C'était assez simple.
Finalement,
en fait.
On a essayé un petit peu d'aller chercher un peu tout le monde, mais c'est vrai.
C'est ça.
Parce que là, les gens là, qui sont en réinsertion, ça a du sens aussi par rapport à ça.
Alors, les personnes en réinsertion, oui, tout
par
à fait.
Par rapport à l'association, c'est Parchemin.
C'est à Le Chemin.
Le Chemin, pardon.
Je ne sais pas si tu connaissais.
Non, pas du tout. Non.
En fait, c'est une association, en effet, pour les jeunes en situation de réinsertion. Et pour eux, c'est un travail à part entière, cette journée.
Ouais.
Donc, oui, beaucoup de bénéfices à mener cette journée pour eux. Assez difficile aussi, assez fatigant, mais ils ont réussi à aller au bout et ça a été vraiment bénéfique. D'ailleurs, ils sont repassés à la radio la semaine dernière pour faire un flashback de l'événement au sein de la chronique radio Camille Sport et Cancer que j'ai ouvert sur Radio Libre en Périgord.
Exactement. On retrouve tous les...
Alors, c'est tous les mois. C'est sur la 102.3. Il y a les podcasts qui sont sur leur site. Et c'est assez intéressant parce qu'on a créé un super partenariat avec RLP. Je mets en avant, finalement, les professionnels de santé, les thérapeutes, mais également les associations. Et là, je me suis dit que ça serait intéressant que cette fois-ci, les jeunes du chemin qui ont participé à la marche bah, viennent sur cet événement, sur ce reportage, débriefer un petit peu de comment ils l'ont vécu. Ils étaient trois et les trois ont vécu les choses différemment et ça a été extrêmement intense pour eux. Pour des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont en réinsertion, ça a été un gros événement. Ils l'ont surmonté et ils ont même réussi à très bien faire les tâches parce que tout le monde était satisfait de leur approche. Ils étaient très adaptables et tout s'est bien passé. Donc en fait, j'ai vraiment aimé faire le podcast avec eux la semaine dernière pour ça, pour ce côté échange sur l'événement qui a été vécu différemment d'une personne à l'autre. Ils étaient encadrés par Manuel, leur éducateur de l'association Le Chemin, justement, qui a lui-même travaillé dans la santé, qui a été ostéopathe dans le passé.
Donc, il était sensible à la cause.
Exactement.
Voilà. La Fondation, du coup, quelles sont aujourd'hui ses ressources ? Comment la Camille vit ?
Alors là, actuellement, on a un service partenariat donc, à l'échelle nationale donc, qui collecte des fonds. On a également sur les événements, comme la marche des 25 km, des fonds qui sont récoltés de par les partenariats. Mais chaque patient va donner un petit peu, en fait, faire un don. Donc en fait, la Camille, elle est très dynamique en termes de partenariat. Par-dessus, il y a des dons de fées. Donc la cagnotte, finalement, se remplit d'année en année.
D'accord.
Là, je travaille beaucoup là-dessus avec le partenariat avec Saint-Joseph. Ils vont donner financièrement chaque année. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps à la recherche d'argent au sein de l'association, comme toutes les associations, on a besoin de fonctionner, de payer les salariés, etc.
Et il y a une grosse aussi, évolution aussi sur la communication.
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est vrai que je suis assez ancrée dans la communication en Dordogne, tu as dû le remarquer, Jérémy. Donc j'ai ouvert la chronique radio, les journaux, la radio, on est assez actifs.
Ça fonctionne bien. De se différencier.
Voilà, ça permet surtout d'être visible et de montrer qu'on existe pour au final continuer à inclure de nouveaux patients. La communication, je suis aussi présente à la clinique Francheville auprès des médecins. C'est important de faire la communication auprès des médecins, au-delà de la communication externe avec les journaux et la radio. Le but, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de professionnels de santé qui bien leur expliquer en fait en quoi consiste la Camille pour ensuite qu'ils puissent finalement parler autour d'eux et nous amener de nouveaux patients.
Je rebondis là par rapport à où c'est qu'on vous trouve. Tu parles des hôpitaux aujourd'hui en Dordogne. On te retrouve où, Julia ?
Là en Dordogne.
Et puis tout le monde un petit peu, tous ceux qui travaillent à la Camille, on les retrouve où ?
Alors là, en Dordogne, moi, je travaille à la clinique Francheville du lundi au vendredi.
Francheville, ok, d'accord.
Ensuite, les autres praticiens en France, ils sont sur différents lieux, mais essentiellement des hôpitaux, en fait. On est essentiellement ancrés dans les hôpitaux. Certains praticiens sont ancrés dans des maisons de santé, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur les hôpitaux, parce que c'est là aussi qu'il y a les médecins avec lesquels on peut construire au quotidien un travail de fond. Il n'y a pas de secret, il faut, sur les temps administratifs, aller démarcher les médecins, aller les voir, discuter avec eux, arriver à avoir des rendez-vous.
Vous accompagner, vous pouvez nous confier des protocoles.
Voilà, on peut travailler ensemble, en fait, tout à fait. Et les infirmiers, au final, c'est un super relais parce que les médecins étant beaucoup pris, ayant beaucoup de travail, les infirmiers, finalement, vont permettre de relayer l'information. Donc, tous les soignants, on travaille beaucoup avec la Ligue contre le cancer également. J'oriente beaucoup de patients vers la Ligue, vers d'autres associations, comme IGEA notamment. Ils sont passés à la radio sur RLP il n'y a pas très longtemps. C'est deux praticiennes qui ont connu la méthode Camille, qui l'adapte sur des séances de marche nordique et sur des séances de gymnastique posturale. Donc, elles sont sensibilisées à la cause, à travailler dans le cancer également. Donc il y a un travail de fond à l'hôpital, en communication externe, à la radio, dans les journaux. Et là, je mets en place une réunion d'information en décembre. Donc c'est le début d'un nouveau travail pour réunir tous les praticiens et leur présenter en fait toutes les actions que je suis en train de t'énumérer actuellement à la radio. Leur en parler avec un diaporama à l'appui.
Et ça va se passer où ? C'est quand ?
C'est à la clinique Francheville et c'est en salle de réunion. C'est le vendredi 5 décembre à 15h30.
D'accord.
Et le but, ça va être sur une heure... de présenter aux médecins, aux soignants, à tous les professionnels de santé, les kinés également, et puis les médias qui seront également présents, les partenaires, exactement ce que fait la Camille et comment chacun peut participer au travail Camille.
Se mettre en relation.
Exactement, comment on peut travailler ensemble. Et ça, c'est le vrai enjeu, parce que tout le monde a plein d'informations qui sont souvent périmées, parce qu'elles remontent à de nombreuses années. Il y a eu plusieurs praticiens à la CAMI. Donc là, il faut actualiser un peu tout ça. Voilà, qu'est-ce que je mets en place sur la Dordogne et comment travailler ensemble de manière intelligente, sans trop impacter le travail des soignants, qui est déjà conséquent, mais voilà, qu'on puisse intelligemment faire, finalement avoir un échange de bons procédés, que je puisse leur apporter et que vice-versa, ils puissent également m'amener de nouveaux patients.
Qu'est-ce que tu as envie d'emmener? Quel est ton projet à long terme?
Là, sur le long terme, j'aimerais pouvoir finalement évoluer au sein de la CAMI. Donc là, il va y avoir du mouvement à l'échelle nationale à ce niveau-là. Je ne peux pas pour l'instant en dire beaucoup plus, mais c'est en cours de construction.
Mais dans l'organisation, par exemple, au niveau national?
Oui, voilà. Il y a peut-être de nouveaux postes pour continuer à monter en grade qui vont être mis en place. Après... Concrètement, en Dordogne, continuer à développer les inclusions qui ne sont pas toujours très hautes à Francheville. Donc là, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il va falloir continuer à faire la promotion de la CAMI pour inclure de plus en plus de patients en oncologie. Et puis continuer en fait à développer la chronique radio, la communication qui a un rôle phare, la communication externe avec tous les médias comme Liberté FM justement et bien d'autres, et continuer à développer finalement les événements. Je pense notamment à un événement de rentrée. Là on l'a fait avec les 25 ans de la CAMI, mais on pourrait reconduire ça l'année prochaine, alors sous une autre forme, suite au prochain épisode.
Et quelle serait ton idée, toi? T'as une idée, du coup, de ce que tu pourrais faire?
Alors là, il faudrait que ce soit acté par la communication. Mais en effet, moi, j'avais pensé à une plus petite distance, 8 km, sous les 10 km.
Ouais, bien sûr.
Ça fait un peu moins peur que...
Voilà, c'est ça, que 25 km à pied.
Et puis une petite célébration de midi à 15h pour vraiment permettre aux patients déjà de rester après une marche pas trop longue et puis sans être trop fatigué, créer du lien, fédérer dès la rentrée l'ensemble des patients et puis créer du lien avec les partenaires d'année en année, peut-être les développer. Justement, si on a des partenaires financiers comme le collège ou lycée Saint-Joseph, continuer à promouvoir ce développement.
Tu vas du coup aussi à l'école pour sensibiliser les jeunes?
Là, en fait,
sur ton intervention,
on en a discuté cet après-midi et c'est un grand sujet. Il va falloir qu'il y ait un échange de bons procédés. Donc ça, on va en discuter. On va créer une feuille de partenariat pour ensuite continuer à évoluer ensemble. Mais en effet... certainement, présenter mon activité peut être bénéfique pour les jeunes de la coiffure qui, en fait, s'intéressent au sport santé et qui sont ancrés, finalement, en oncologie également, dans les actions en oncologie. Elles ont participé à la marche des 25 km. Donc, il y a eu un réel bénéfice, finalement, pour elles à venir à cette marche. Elles ont appris beaucoup de choses, finalement, sur le cancer qu'elles ne connaissaient pas. Donc, en effet, ça, c'est un projet, peut-être, tu vois, tu m'inspires, c'est un projet à venir.
Tu penseras à moi. Si tu devais décrire la CAMI en 3 mots, tu dirais quoi?
Développement, solidarité et thérapeutique.
D'accord.
Alors, pourquoi développement? Parce qu'on est en cours de développement actuellement en Dordogne, mais dans toute la France. Bien sûr. Puis il y a encore beaucoup de choses qui bougent parce que l'équipe se développe, mais est aussi stable depuis plusieurs années. Donc, c'est plus facile de construire ensemble. Solidarité pour finalement la solidarité entre les patients. Je vois, ils créent du lien, ils se voient en dehors des séances. Je sens qu'il y a un rapport de confiance qui s'est installé avec les patients et j'apprécie énormément. Donc, ce côté solidaire, ils viennent aux événements, ils aident certains. Qui sont en traitement lourd, ils étaient là dès 9h du matin pour l'événement, donc je me suis rendu compte de la motivation de chacun. Et thérapeutique, parce qu'en en fait, on n'est pas sur du sport santé, je me suis mal exprimée tout à l'heure, on est vraiment sur une activité physique thérapeutique en lien avec les équipes médicales, et sans les médecins, justement, notre métier ne pourrait pas exister, donc on est interconnecté au monde médical et
c'est
on
beau.
Est des thérapeutes.
C'est beau tout ça. Quel témoignage marquant de patients ou de proches que tu pourrais illustrer concrètement sur l'impact de la CAMI?
Alors justement, là j'ai une patiente qui va passer en novembre, qui est là depuis des années, qui va pouvoir témoigner, mais en fait j'ai un livre d'or et j'ai pas mal de témoignages finalement de patients, et ce qui ressort c'est une amélioration de la souplesse, parce que étant une ancienne danseuse classique, je leur montre beaucoup de mouvements de souplesse qui reproduisent chez eux certains, donc beaucoup d'amélioration au niveau de la souplesse, de la force musculaire et la rupture de l'isolement pour certains. En fait, la maladie, elle isole parce que les patients se sentent seuls. Et c'est vrai que le fait de venir en séance, bah, il crée du lien entre eux. Et il y a finalement presque une petite fête entre les patients de se retrouver. Je sens qu'il y a vraiment un réel enthousiasme.
Quand tu fais du coup des séances, vous êtes combien en général de patients ?
C'est 7 patients maximum pour bien pouvoir accompagner les patients. Après, on n'est jamais 7, c'est assez rare. En général, c'est plus 4 ou 5.
Ouais, ouais.
Mais du coup, ça leur permet en petit comité de faire connaissance avant et après les séances, d'être bien accompagnés. Et je sens qu'il y a un réel engouement à venir. Et même les personnes très fatiguées font l'effort de venir, donc c'est tout ça, c'est positif, ça donne envie de continuer dans cette démarche. Et on connaît la marche à suivre. En fait, ce qu'il faut, c'est motiver le patient et puis derrière lui donner envie, lui prouver par les séances que c'est bénéfique au bout de 3 mois, qu'il y a des évolutions physiques et psychiques également par la rupture de l'isolement et l'amélioration du lien social, la création de liens sociaux pour certains. Et ensuite, ils sont convaincus, ils ont envie d'y rester parfois des années. C'est à nous de leur dire qu'en fait, on est juste un tremplin et qu'on les emmène juste. C'est peut-être un peu modeste parce qu'en fait, on est un super tremplin qui leur permet d'accéder à un super projet sportif et pour retrouver un lien avec les personnes dites lambda, non atteintes de pathologie.
Comment on fait du coup pour te joindre, pour te contacter, Julia ?
Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 20 25 15 76. Et le mail, c'est julia.padu@sport-au-singulier-cancer.com.
Ok, ça c'est noté. Il est 19h53, il nous reste 2 minutes. Je sais que tu as une échéance là qui arrive très prochainement. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton côté là, c'est ton côté du coup perso.
Ah, le côté sportif.
Voilà, exactement.
On fait grand écart, voilà, on passe du ça, coq à l'âne.
C'est ça.
Le côté sportif. En effet, j'ai le marathon du Cher qui arrive le 12 octobre. Donc, c'est une échéance qui me stresse un peu parce que je ne connais pas le marathon. C'est une distance que je n'ai jamais faite dans ma vie sportive. J'ai été que jusqu'au semi-marathon. Mon record, il est en 1h17. Bon, là, j'aimerais atteindre les 2h45, avoir le chrono de 2h45, plus bas si possible, entre 2h40 et 2h45. Je m'entraîne dur depuis 3 mois. J'ai une prépa très complète avec Alexandre Beaufils, qui est encore mon coach actuellement. Là, je vais courir à Bergerac après le marathon. Donc, je vais changer de club. Je vais partir avec... peut-être que tu connais le coach de Johan Durand.
Tu connais ? Oui, tout à fait, ouais.
C'est Christophe Lenocher. Et là, pour l'instant, c'est Alexandre qui me coach. J'ai mon objectif et j'espère, en tout cas, prendre beaucoup plaisir sur ce marathon. En plus, c'est la vie natale, le Cher de ma maman. Donc, j'espère gagner ce marathon, avoir la médaille d'or. Et voilà, pour ça, il y a de la préparation mentale, physique. J'ai lu le livre de Johan Koval également, qui m'aide beaucoup. C'est devenu ma Bible. Et voilà, je fais très attention à mon alimentation et à tout ce que je fais au quotidien. Je me lève marathon, je mange marathon, je respire marathon et je travaille marathon presque.
Voilà. Eh bien, écoute, 19h55, c'est déjà la fin de cette émission. C'est passé super vite. Merci à toi, Julia, d'être venue dans nos studios. Si tu avais un dernier mot, ce serait lequel ?
C'est déjà la fin.
Oui, c'est déjà la fin, ouais.
Mais merci de m'avoir reçu dans ton studio. Et voilà, je vais continuer à promouvoir la Camille de cette manière. Et puis, j'espère revenir victorieuse du marathon du Cher.
Et oui, on va suivre ça sur la demi-heure sport, ne t'inquiète pas. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée.